Bonjour et bienvenue, chers auditeurs de CFM, à cette quatrième émission d'Écoute Classique. Bonjour à tous les passionnés de musique. Je suis Jean-Paul Carrère, le directeur de l'école de piano d'Arnac, commune de Varin, et je vous propose un rendez-vous de musique classique sur CFM tous les mois. L'émission est diffusée le troisième mercredi de chaque mois à 22h, ainsi que tous les dimanches après-midi à 16h. Vous pourrez aussi réécouter l'émission sur le site de CFM, rubrique Écoute Classique. Je suis à vos côtés durant une heure pour vous faire découvrir des moments classiques, des compositeurs, et partager ma modeste culture musicale avec vous, cher public, en vous proposant des écoutes classiques. Commençons par notre écoute minute. Voici une recette de cuisine en cette période de beaux jours où l'on peut cuisiner à sa guise les bons lièvres chassés cet hiver et mis au congélateur. Voici comment préparer un bon civet. Écoutons Leonard Bernstein. Vous le connaissez, c'est lui qui a composé West Side Story. Voici la bonne cuisine, civet à toute vitesse. C'est donc, pour ceux qui nous rejoignent, la recette du civet de lièvre de Leonard Bernstein, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Pour ceux qui n'ont pas entendu correctement la recette, je vous la dicte. Lorsqu'il sera très passé, voici venir de confectionner un civet de lièvre que je recommande. Dépecez le lièvre pour le civet ordinaire, mettez-le dans une casserole ou un chaudron avec son sang et son foie écrasés. Une demi-livre de poitrine, deux pommes coupées en morceaux, une vingtaine de petits oignons, un peu de sel et poivre, 1,5 litre de vin rouge. Faites bouillir à toute vitesse au bout de 15 minutes environ. Lorsque la sauce est réduite de moitié, approchez un papier enflammé de manière à mettre le feu au ragoût. Lorsqu'il sera éteint, déliez la sauce avec une demi-livre de beurre et miettes de persil et servez. Évidemment, cette œuvre n'est pas représentative et réduire l'écoute de ce maître à quelques conseils culinaires mis en musique ne serait pas opportun. Voici donc Candice qui prouve que Bernstein sut continuer à rester classique tout en créant et composant avec son style propre.
Thank you.
C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, Candice de Leonard Bernstein, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Après le civet de lièvre de tout à l'heure, je vous propose le gigot. Pour le jeu de mots, écoutons Nicolas Gigot, interprété par Alain Leclerc à l'orgue de Thérope dans le Gers. Voici une basse de trompette. C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, une basse de trompette pour orgue de Nicolas Gigot, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Dans les cordes frottées, il y a parmi tant d'instruments la contrebasse, le violoncelle, le violon, mais aussi un grand violon grave qui se nomme l'alto. Il joue souvent des parties assez pauvres dans l'orchestre, car bien souvent les compositeurs ont utilisé cet instrument comme complément harmonique et non comme soliste. Fort heureusement, certains amoureux des cordes, comme Robert Schumann, dans sa Marchenbilder, mettent à l'honneur l'alto, accompagné parfois d'un piano. Écoutons son opus 13, numéro 3.
Thank you.
C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, la Marschenbilder de Schumann pour alto et piano, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Voici un grand homme, élève de Franz Liszt et son gendre, Richard Wagner. Écoutons le prélude du troisième acte de son célèbre opéra, Lohengrin. C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, le prélude du troisième acte de l'opéra Lohengrin de Wagner, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Tiens, un compositeur bien connu pour une pièce de piano, un compositeur contrarié, que sa renommée se résume à cette seule œuvre qui n'est pas représentative de tout ce qu'il a pu composer, exaspéré par sa propre composition, voici le prélude en ut dièse mineur, opus 3 numéro 2 pour piano de Serge Rachmaninov.
Thank you.
C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, le prélude en ut dièse mineur de Rachmaninov, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. C'est l'heure de la petite biographie maison, j'ai souhaité vous parler d'Isaac Albéniz. Isaac Manuel Francisco Albéniz, né le 29 mai 1860 à Caprondo, en Espagne. C'est un pianiste et un compositeur catalan. Il est particulièrement renommé pour ses œuvres pour piano inspirées de la musique folklorique espagnole. Un grand nombre de ses pièces a été transcrites pour la guitare. Ces transcriptions participent aujourd'hui grandement à la renommée d'Albéniz. À 4 ans seulement, il donne son premier concert au théâtre de Barcelone, et pour la petite histoire, des gens allèrent vérifier derrière le rideau de la scène si un autre pianiste n'y était pas caché, tant ils furent impressionnés. Il se fait remarquer dans de nombreux conservatoires, Madrid, Leipzig, Paris, non pas par son talent, mais bien par sa mauvaise conduite. Comme quoi, les grands musiciens ne font pas forcément de grandes études couronnées de diplômes, le talent étant déjà au rendez-vous. Il est pour eux très difficile de s'intégrer dans un cursus académique où le musicien doit se faire violence ou bien renoncer à se former pour ne pas perdre sa liberté, sa personnalité, son inspiration, son style brut de composition. Grand voyageur, le jeune Albéniz fait à Budapest la rencontre de Franz Liszt en 1880. À partir de 1883, il se fixe à Barcelone et épouse une de ses anciennes élèves, Rosina Jordana. À partir de cette année-là, le musicien fantasque se consacre pleinement à la composition et aussi à l'éducation de ses 4 enfants. Puis, après un détour à Londres, il se fixe définitivement à Paris, quelques années plus tard, attiré par la musique et la vie parisienne. Isaac Albéniz meurt le 18 mai 1909 d'une affection rénale en France, à Cambo-les-Bains. Pour la petite anecdote, Isaac Albéniz est l'arrière-grand-père par alliance de notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Écoutons Isaac Albéniz dans son œuvre la plus populaire, Asturias. Voici une transcription pour guitare qui va sûrement éveiller des vocations de guitariste. Thank you. C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, Asturias d'Isaac Albéniz, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Je réponds aujourd'hui à la question de Paul, qui me demande pourquoi il y a des orgues en hauteur et pourquoi il y a des orgues au rez-de-chaussée, pour reprendre son expression. Il y a des orgues en hauteur dits orgues de tribune, qui sont généralement des instruments assez imposants, puis des orgues au rez-de-chaussée, mais l'on dit plutôt de plein pied, dit orgue de chœur. L'on peut trouver cependant dans certains lieux des grandes orgues au sol, faute d'une tribune adaptée, pouvant soutenir le poids de l'instrument qui pèse, buffet, mécanique, tuyau, plusieurs tonnes. L'orgue en tribune a une signification liturgique. Il sert à transmettre la prière de l'assemblée du sol vers le ciel. Il est donc situé à mi-hauteur, entre le sol et les voûtes, et apporte une contribution musicale particulière, et sa présence témoigne du lien entre les hommes et Dieu, ou Dieu et les hommes. Certains organistes n'hésitent d'ailleurs pas à jouer très fort, de leur aveu, afin que Dieu entende bien les prières au cas où il serait sourd. Humour certes, mais l'origine de l'orgue en tribune a toute une vocation. À l'époque baroque notamment, il servait à soutenir le plein chant, non à l'accompagner comme de nos jours, où le rôle de l'instrument a été dévoyé. L'orgue répondait au chœur par des pièces propres, fugues, tierces en taille, récitatifs, et comme on l'a entendu tout à l'heure, une basse de trompette, tout était codifié. Les œuvres composées ou immédiatement improvisées par les organistes. L'orgue de tribune donnait une sorte de concert pour Dieu, mais en ce temps-là, la durée moyenne d'un culte était de 3 à 4 heures. Les orgues de chœur que l'on voit dans nos cathédrales ont été installés après l'époque baroque pour des besoins spécifiques, l'accompagnement de chorales ou de solistes, car il est techniquement impossible de bien l'accompagner depuis un grand orgue qui n'est pas un instrument accompagnateur mais soliste. L'orgue de chœur est proche du chœur ou du soliste et permet de jouer en temps réel du fait d'une faible réverbération. À noter que l'orgue de chœur de la cathédrale de Montauban est l'un des plus grands orgues de chœur de France. Pour résumer, les grandes orgues baroques sont des instruments en tribune et solistes. Les orgues de chœur ou les grandes orgues romantiques puis symphoniques ont une vocation d'accompagnement. Et le fait de placer un orgue en tribune a eu un sens liturgique. De nos jours, c'est très aléatoire et peu considéré pour des raisons économiques. Construire un orgue de plein pied coûte beaucoup moins cher que de doter un lieu d'une tribune apte à supporter le poids considérable de l'instrument et garder le symbole liturgique de l'orgue. Écoutons un orgue, celui de la cathédrale de Rodez. Voici un CD qu'on m'a offert pour les 20 ans de l'inauguration de l'orgue qui est sorti récemment. Écoutons la sonate de Wolfgang Amadeus Mozart en ré majeur, transcrite pour orgue. C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, la sonate de Mozart en ré majeur jouée à l'orgue de la cathédrale de Rodez, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Comme d'habitude, voici une petite question sur l'histoire de la musique. D'où vient le mot « musique » C'est très simple. Du latin « musica », il vient surtout du grec « muse », la muse, qui est une personne en fait mythologique, qui influence l'inspiration des artistes dans l'art en général. Le mot « musique » pourrait ne pas forcément désigner des sons propres, mais toute expression artistique d'origine inspirée. Cela explique que le mot « musique » qualifie tant la variété, le jazz comme le classique, car tous ont une inspiration, une base d'improvisation ou de composition à différencier du bruit. Qualifier par exemple la techno-électronique de musique techno est une incohérence. Il n'y a pas d'art ni d'inspiration puisque c'est géré par un ordinateur. Quant aux courants musicaux comme le rap, l'on pourrait dire que c'est de la musique dans le sens que les paroles ont des rimes et ressemblent à nos poésies contemporaines. Mais est-ce que l'on doit tout appeler art ? Rimbaud, Chateaubriand se retourneraient dans leur tombe si nous leur montrions un texte de rap avec leur rime propre, œuf, qui rime par exemple avec keuf. Le mot musique peut donc désigner sans faute un sculpteur qui fait de la musique avec ses instruments, un peintre faisant de la musique avec ses pinceaux, le graveur, etc. La palette du mot musique peut être riche et même reconnue dans des professions artisanales. Le boulanger, dont le craquellement du pain fait de la musique. Et cette définition demande d'approfondir, lors de notre prochaine émission, le mot « art ». Le mot « musique » devient finalement abstrait, c'est pourquoi il est souvent complété par un qualificatif « musique classique », »,« musique contemporaine », »,« musique baroque », »,« musique jazz ». Chaque personne ayant un art propre en soi et un talent caché peut sans contradiction s'estimer être un musicien qui, au sens étymologique, explique le fait que l'on est pourvu d'un art sans préciser lequel. De manière philosophique, l'homme étant créé à l'image de Dieu, l'on pourrait dire que chaque être humain est une note de musique. Voyez comme la voix peut exprimer ses propos. Voici l'Ave Maria de Franz Schubert, transcription pour chœur et soliste. C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, l'Ave Maria de Schubert, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Voici comme d'habitude le concerto de notre fin d'émission. Je vous propose d'écouter Serge Prokofiev, concerto pour piano et orchestre numéro 3, opus 26.
Thank you.
C'était donc, pour ceux qui nous rejoignent, le premier mouvement du concerto pour piano numéro 3 de Serge Prokofiev, et vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin, rediffusion tous les dimanches à 16h. N'oubliez pas que l'école de piano donne dans ses locaux sur Arnac, commune de Varin, une nocturne tous les vendredis à 21h sur un piano de concert IBAC préparé par Jean-Paul Weiss, entrée libre, participation libre. Ce sera l'occasion, chers auditeurs, de se rencontrer de vive voix et de partager ensemble un autre moment de musique. Voici le programme des nocturnes de l'école de piano de ce mois de juillet. 6 juillet, 21h, psaume et improvisation. 13 juillet, 21h, œuvre choisie de Granados. 20 juillet, 21h, une surprise. 27 juillet, 21h, les toccatas de Bach. Voici le programme des concerts d'été de ce mois de juillet. Mardi 3 juillet, 21h, concert d'été autour du Fitzwilliam Virginal Book, un concert de clavecin. Mercredi 4 juillet, Mozart œuvre à la demande à 21h au piano. Jeudi 5 juillet à 21h, les suites de Dumage et de Jean-Adam Guilin pour orgue. À noter sur votre agenda les prochains stages de l'école de piano. Samedi 7 juillet, initiation au chant lyrique. Et lundi 9 juillet, technique piano, 9h-16h, avec 2 ans de clavier exigés. Pour récapituler, nous avons écouté lors de cette émission les compositeurs classiques suivants: Bernstein, Gigot, Schumann, Wagner, Rachmaninov, Albéniz, Mozart, Schubert, Prokofiev. Souvenez-vous des compositeurs appris lors de nos 3 dernières émissions: Saint-Saëns, Marais, Bach, Puccini, Satie, Dvorak, Massenet, Barber, Tchaïkovski, Charpentier, Handel, Bruckner, Fauré, Messager, Elgar, Messiaen, Grieg, Villard, Krebs, Mantoue, Palestrina, Khatchaturian, Debussy, Vidor, Moussorgski, Vivaldi. Voici donc un total de 35 noms de compositeurs appris, et ce n'est pas fini, je vous en ai promis plus de 50. Merci à CFM de consacrer son antenne à la redécouverte de nos œuvres et compositeurs classiques. Merci à vous, chers auditeurs. J'attends vos questions sur la musique, vos commentaires, et je vous dis au mois prochain. Au revoir.